Bien, je vous fais passer le texte pour aujourd'hui. Ça se plie comme ça. La page blanche, la dernière page en fait. Bien. Alors avant de commencer par nos deux chapitres d'Ézéchiel 29 et d'Ézéchiel 30, je propose juste de nous arrêter un instant sur un petit passage qui a été l'occasion d'une interrogation de l'un d'entre vous. C'est au chapitre 20 d'Ézéchiel. Il y a ce moment où il y a une conduite qui est reprochée. C'est Israël qui ne suit pas les prescriptions. Et puis il y a un verset assez étonnant. C'est donc au chapitre 20, le verset 25. C'est Dieu qui parle et il dit « En plus, je leur donnerai moi-même des lois qui n'étaient pas bonnes et des coutumes qui ne font pas vivre. Je les souillais par leur offrande, les sacrifices de tous les premiers-nés, c'était pour les frapper de leur désolation afin qu'ils reconnaissent que je suis le Seigneur. » Donc vous voyez, ce qui est assez étonnant, c'est un passage qui évoque l'idée selon laquelle non seulement Dieu donnerait des lois iniques, mais de surcroît encouragerait le massacre, le sacrifice des enfants. Alors, vous pouvez, là je l'ai lu dans la traduction œcuménique de la Bible. Si je le lis dans une Louis II, c'est pas très éloigné. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Donc là, ça indique Dieu qui, en quelque sorte, fourvoierait le peuple. Et puis ensuite, je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tout leur premier-né. Ce qui du coup change un petit peu, c'est qu'on a l'impression que ce n'est pas Dieu qui demande le sacrifice des enfants, mais c'est qu'à l'occasion du sacrifice des enfants, Dieu souille l'action du peuple. Alors, j'aurais tendance... Tu n'entends pas bien, François, ça ?
Si, oui. Je voulais simplement dire que ça faisait penser quand Dieu envoyait Moïse auprès du Pharaon,
oui,
et qui disait, je me souviens bien, j'endurcirai le cœur de Pharaon.
Oui.
Et c'est pareil.
Alors il y a cette idée-là, effectivement, je pense qu'il y a une sorte de pédagogie qui est mise en place. En fait, il y a deux façons de le comprendre, à mon avis, ce verset. Alors tout d'abord, distinguer les deux parties. Celle où il y a les faux commandements et puis celle où il y a la question du sacrifice. À mon avis, la question du sacrifice, traitons-la en premier. Dans les deux cas, il s'agit effectivement d'invalider la pratique qui a cours à cette époque-là. C'est-à-dire qu'en souillant l'offrande, c'est une façon de dire qu'il ne valide pas le sacrifice en tant que sacrifice. Il souille l'offrande qui est faite à travers ses enfants. C'est une manière de dire, à mon avis, que du coup, il ne s'y reconnaît pas. Hein, puisque l'offrande, le sacrifice d'enfants, c'est en fait un cadeau fait à Dieu. Un holocauste, c'est quand on brûle entièrement quelque chose pour Dieu. Et donc le fait qu'il le souille, qu'il considère que c'est impur, ça signifie que ça n'a pas sa qualité d'offrande ou d'holocauste. En revanche, il n'y a pas d'incertitude sur la première partie, à savoir Dieu qui donne... On est au chapitre 20, en fait, hein, Paul. Je vous ai juste dit que je prenais le chapitre 20. Donc, soyez pas perdus avec 29 et 30, on n'y est pas encore. La première partie, elle est, à mon avis, compréhensible de deux manières. Soit c'est de l'ironie, soit c'est une... pédagogie par l'absurde. À supposer que ce soit de l'ironie, ça signifierait que l'auteur fait dire à Dieu « Ah bon, alors comme ça, je vous donnerai des préceptes qui sont faux, des préceptes qui sont mauvais. » sous-entendu, je répondrai à l'accusation faite par le peuple que si nous en sommes arrivés là aujourd'hui, nous qui sommes restés fidèles à Dieu, c'est parce qu'en fait Dieu nous a conduits sur une mauvaise voie. Et du coup, ça pourrait être une sorte de réponse ironique. Alors comme ça, je vous aurais donné de fausses indications. L'autre hypothèse qui me semble plus plausible dans la perspective de l'auteur, parce que je ne vois pas pourquoi à un moment donné il ferait de l'ironie là, d'un seul coup, soudainement, ce serait de dire, eh bien, pour te montrer les conséquences pour te montrer là où mène le fait de suivre autre chose que mes commandements, je te mets en situation de suivre de faux commandements et tu vas voir que ça ne marche pas. Pour être plus simple, je vais vous expliquer ce que j'ai en tête en vous disant ça. Il y a une animation qui se pratique souvent chez les scouts pour faire comprendre tous les bienfaits de la loi. C'est de faire jouer au rugby ou au football sans règles. Et en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si les joueurs ne sont pas d'accord sur un ensemble de règles, en fait, on n'arrive pas à jouer. Et ça pourrait être cela, cette pédagogie. C'est de mettre le peuple en situation de dérégulation et même de déréglementation de façon à ce qu'ils prennent conscience de l'utilité de la loi. Ça me semble être l'hypothèse plausible. Une sorte de mise en situation qui montrerait par un raisonnement, par l'absurde, à quoi mène le fait de ne pas adopter les prescriptions divines. Est-ce que ça répondait à la question ? Ça va ? Okay. Donc je vous propose de passer maintenant au chapitre 29 et 30, qui présente un intérêt par rapport au texte de la fois précédente, c'est qu'ils sont moins épouvantables. L'inconvénient qui demeure, c'est qu'il reste quand même très éloigné de notre culture. L'autre inconvénient, c'est qu'on se demande à quoi bon continuer à lire ce genre de texte. Moi-même, je me pose ce genre de questions, hein, vous inquiétez pas. Mais en général, après avoir pris le temps d'y réfléchir un peu, je me dis, bon, ça vaut le coup en tout cas de ne pas arracher les pages. Mais c'est vrai qu'on n'y sent pas bien le concentré de l'Évangile qui nous fait nous lever encore. Bon, on va quand même essayer d'y trouver un petit peu d'intérêt. L'intérêt sera à la fois culturel, retrouver un peu l'histoire qui se trame derrière. Et puis, je dirais entendre un ou deux enseignements qui peuvent être encore utiles aujourd'hui, plus... Je ne peux pas vous le garantir tout de suite. Alors, on va commencer par quelques remarques de forme qui vont nous aider une fois de plus à être vigilants sur le statut du texte biblique. Et alors, ces premières remarques, je vais vous les demander en fait. Ça va être... Alors, vous n'avez pas tous lu le texte, mais certains parmi vous l'auront déjà lu. On le reprendra après verset par verset, on ne va pas le lire intégralement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné au sens où il y a des trucs qui ne collent pas, vous voyez ? Des anomalies. Est-ce que vous avez repéré quelques anomalies dans ce texte ?
Oui. Je trouve ça bizarre qu'il s'appuie sur le roi de Babylone pour écraser...
L'Égypte.
Pharaon.
Ah oui.
Et c'est bizarre. Israël, il est où, là ?
Il est entre le marteau et l'enclume, entre les deux.
Exactement.
Vous trouvez ça bizarre de faire du billard à plusieurs bandes à cette époque ? En tous les cas, on s'attendrait à ce que Dieu intervienne directement et qu'il n'utilise pas un peuple contre un autre, voilà. Ce qu'on appellerait de l'instrumentalisation. D'accord. Ça, c'est plutôt une remarque de fond. Remarque tout à fait juste, mais de fond, mais plutôt une remarque formelle. Mais je vais sinon vous mettre cela devant les yeux. Allez, prenez. Bonjour.
comprenez ça, c'est le texte.
Merci. Plus bizarre encore, c'est la justification donnée. Le roi de Babylon a tellement travaillé pour capturer Tyr, sans succès, et alors, disons, consolation, Dieu lui donne l'Égypte.
Oui. Ça, c'est pas très évangélique.
Non.
Alors, ça, on va, oui, effectivement, y revenir. Comme remarque préliminaire, ce qui me frappe, c'est les problèmes de date. Vous avez vu qu'il est fait plusieurs fois mention de date. Et ce qui est étonnant, c'est en fait la chronologie qui est développée dans ces deux chapitres. C'est pour ça que les deux valent le coup d'être pris ensemble.
Donc, on a au chapitre 29 la première indication, c'est pour la première section, c'est le passage 1 à 6, c'est le 12, 10, 10, c'est égal à janvier 587.
C'est pas moi qui fais l'équivalence, mais... Les historiens font l'équivalence. Donc, vous voyez, au chapitre 29, on commence par la dixième année du dixième mois, le douzième jour du mois, la parole de l'Éternel vint à moi. Donc, on est, certains vont même jusqu'à calculer le 7 janvier 587. Bon.
Ensuite, dans les versets 6 à 9, on a Nabucodonosor. Et ensuite, on a la victoire qui n'est pas la victoire de Nabucodonosor, mais qui est la victoire de Cambyse, qui n'apparaît pas dans le texte, mais c'est lui qui va remporter une victoire contre l'Égypte et pas Babylone. Ensuite, 9-16, c'est l'Égypte ravagée. L'Égypte ravagée, on en a l'attestation, donc c'est la victoire de Cambyse, c'est en 525.
Bonjour.
Je vous en prie, il n'y a pas de problème.
Et puis, là, on retrouve une indication, c'est... Donc au verset 17, on a une nouvelle indication, la 27e année, le premier mois, le premier jour du mois, c'est à peu près mars 570. Et puis ensuite, on va avoir une autre indication, un peu plus loin. Pour la dernière section, et là ça nous ramène à mars 587. Donc vous voyez, sur le plan du déroulement de l'histoire, il y a quand même un sérieux problème. Ça commence en 587, on va nous parler de l'Égypte ravagé en 525, on retourne en 570, et puis le chapitre suivant, en fait, on retourne sur mars 587.
Il n'y a pas 26 versets.
Il n'y a pas 26 versets ? Tenez, voici. Bien. Les petits coquins, je vous ai à l'œil. Hein.
Oui, non, mais... Je pourrais s'en aider toujours là.
Non, j'ai mis 30 avant la... Bon. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'axe chronologique historique n'est pas une grosse préoccupation pour le rédacteur final. Donc, premier élément que l'on peut retenir à tout le moins, c'est que ce texte, au même titre que les autres textes bibliques, n'a pas vocation à se considérer comme texte historique. Historique au sens contemporain du terme, où les faits doivent se dérouler dans leur imbrication d'origine.
Est-ce qu'il y aurait plusieurs auteurs ?
S'il y a plusieurs auteurs, c'est très possible, d'autant que vous voyez qu'on est sur des périodes assez éloignées quand même. Mais ça limite qu'on puisse avoir un seul auteur, c'est pas inenvisageable. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi bien un seul auteur qui s'appellerait Ézéchiel, le prêtre, qu'une communauté de prêtres qui aurait pris comme nom de scène ou d'auteur Ézéchiel, qu'un seul auteur dont les textes auraient été ensuite remaniés par quelqu'un d'autre plus tard, ce qui me semble assez probable en fait. C'est-à-dire que si on regarde maintenant plus le contenu de ces textes, on voit qu'il s'agit ici d'oracles contre, c'est-à-dire comment dire, de textes, de prise de parole pour menacer, faire peur et faire réagir surtout. C'est en quelque sorte des imprécations au sens où on aurait un tribun qui veut qu'une prise de conscience se réalise pour que le peuple cesse d'avoir le comportement qui l'a conduit jusqu'à cette situation catastrophique. Et ça, ça va avoir lieu à plusieurs époques de son histoire. Et puis ensuite, quelqu'un rassemble ces différentes harangues et en fait un recueil, en fait un texte qu'il recompose en ce sens où il met côte à côte des textes qui, au premier temps, n'avaient pas de rapport de causalité. Donc, première remarque, le texte comme texte non historique au sens moderne du terme. Deuxième remarque, c'est que manifestement, ce sont des textes qui interviennent a posteriori des faits. C'est-à-dire que ce ne sont pas des textes qui annoncent ce qui va se passer, mais plutôt des textes qui analysent ce qui s'est passé. Et le travail d'Ézéchiel, c'est de comprendre comment on en est arrivé là. L'idée étant que quand on sait d'où on vient, on a plus de facilité ensuite à s'orienter et à ne pas reproduire les erreurs du passé.
Moi, je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance, effectivement, ces séquences historiques, mais ça montre une chose, c'est que l'ensemble de ces oracles parle d'une période longue.
Oui.
Il y a plusieurs éléments dans lesquels on verra. Quand on parle des 40 ans, etc.
Oui.
Le sens de ces oracles s'adresse à plusieurs pays sur une période longue. Le péché dénoncé, c'est pas quelque chose de ponctuel qui s'est passé à un moment donné. C'est quelque chose de récurrent sur une période très longue.
Oui. Ça, c'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose d'un peu plus systémique qu'un seul événement malheureux qui serait la cause de tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de structurel qui doit être modifié, et pour montrer que c'est structurel, on le repère sur différentes époques.
Oui.
Alors maintenant, je propose qu'on rentre dans le texte, et puis on va voir les images qui sont utilisées par le rédacteur, puis on va essayer d'en produire un peu du sens. Je propose de commencer par la première section. Si quelqu'un pouvait lire les versets 1 à 6, ça me ferait plaisir. Les versets 1 à 6 du chapitre 29.
La dixième année, au dixième mois, le douzième jour du mois, la parole de l'Éternel vint à moi, disant : Fils de l'homme, tourne ta face contre le Pharaon, le roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre l'Égypte tout entière. Parle et dis, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, Voici, j'en veux à toi, le Pharaon, roi d'Égypte, grand monstre des eaux, couché au milieu de ses fleuves, qui dit, mon fleuve est à moi, et je me le suis fait. Je mettrai un anneau dans tes mâchoires, et j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je te ferai monter au milieu de tes fleuves, et tous les poissons de tes fleuves qui sont attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras pas recueilli ni rassemblé. Je te donnerai en pâture aux bêtes de la terre et aux oiseaux des cieux. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un appui de roseau pour la maison d'Israël. Lorsqu'ils tomberont.
Oui. Oui, c'est bien. Oui, j'aurais pu indiquer que c'était la première partie du verset 6, mais bon, tout le verset 6, c'est bien. Donc, première série d'imprécations contre l'Égypte, et plus particulièrement contre Pharaon. Et alors, on a ici, vous voyez, un usage du terme Pharaon qui est quasiment un nom propre. C'est-à-dire que on dit Pharaon et après on rajoute le roi d'Égypte. Donc ça c'est un usage ancien a priori, c'est-à-dire c'est a posteriori, oui. C'est plus tardivement que le Pharaon, enfin que Pharaon va devenir la fonction royale. Primitivement, Pharaon, ça désignait en fait le palais royal. Ensuite, ça va désigner du coup la personne qui est dedans. Et puis finalement, ça devient le nom de sa fonction. Mais ici, c'est utilisé, disons symboliquement, comme vous diriez Dieu finalement. Vous voyez, Dieu, c'est un nom commun, même si on peut l'utiliser souvent comme un nom propre. On dit « Oh Dieu », en fait, on utilise Dieu comme le nom propre de la personne. Donc, ici, on a la première image, ça va être le grand monstre des eaux qu'on a au verset 3. Alors, si vous avez des traductions, je pense que ça n'a pas été traduit par « monstre ». Ça a été traduit comment dans vos traductions ?« Crocodile ». Et encore, autre chose, « dragon ». Alors, vous savez pourquoi est-ce que c'est aussi bien « crocodile » que « dragon » ? Ah, c'est des grandes dents, c'est pour mieux vous manger. Alors, en hébreu, tanine, c'est effectivement une sorte de monstre mythique qui pourrait être comme le crocodile parce qu'il est souvent appliqué en fait à l'Égypte. Le crocodile est le mammifère monstrueux classique pour désigner l'Égypte à cause des crocodiles du Nil. Mais en grec, dans la Septante, et puis ensuite dans le Nouveau Testament, c'est « dragon » en fait. Et donc, quand vous avez ce mot « tanine » dans le livre de l'Apocalypse, en fait, c'est le dragon. Le dragon que bat l'archange, c'est en fait le même animal. Donc vous voyez, selon le contexte où il est situé, on n'imagine pas du tout la même bête. Dans le Nil, on va imaginer effectivement plutôt un crocodile. Et puis, dans le livre de l'Apocalypse, on imagine plutôt le dragon noir ailé qui crache des flammes, même s'il s'avère être incapable de cracher autre chose que de l'eau dans le livre de l'Apocalypse. Donc, de toute façon, c'est un monstre et on s'en fiche de savoir comment il est, puisque c'est juste un objet de projection de tous nos fantasmes, cette histoire. C'est-à-dire qu'ici, l'auteur crée une sorte d'abcès de fixation sur lequel on va pouvoir déverser tout ce qui ne fonctionne pas. Oui.
Ce qui est reproché à ce crocodile ou à ce monstre me paraît pour qu'on le condamne.
Oui.
Quand on le balance, quand on lui ferme la bouche avec un anneau et qu'on le mette dans le désert.
Oui.
Ça me paraît assez, je dirais pas dérisoire,
oui.
Mais voilà, qu'est-ce qu'on lui reproche ? On lui reproche d'avoir dit dans le fleuve dans lequel il s'est battu, ah ben ce fleuve
est à moi.
D'accord.
En soi, c'est pas très. Il me semble que c'est une rhétorique complètement différente que celle qu'employait Moïse vis-à-vis du peuple quand il disait ben, voilà, vous ne respectez pas ce que l'Éternel vous demandait, etc. Là, c'était. Ne pas respecter ce que l'Éternel demandait, c'était vraiment le crime suprême. Tandis que là, c'est un peu dérisoire.
Oui.
Il se sentait bien dans son.
Dans l'autre côté, à la fois c'est dérisoire et puis en fait c'est l'un des deux enseignements que j'ai essayé. Je m'étais dit que je pourrais vous mettre dans la bouche. À la fois.
Pendu à nos écailles.
Oui, pendu à vos écailles. Non, c'est vous qui êtes pendu aux écailles du dragon. Oui, à la fois c'est dérisoire, mais en fait c'est autrement plus fondamental. C'est-à-dire que c'est autrement plus sournois. Aujourd'hui, on parlerait de. D'illusion d'auto-fondation. C'est-à-dire que ce qui est reproché à ce personnage et à tous ceux qui vont aller à sa suite, c'est de se considérer comme autosuffisant, de s'être, vous savez, comme on dit, construit à la force du poignet. C'est, en fait, ce qui est reproché, c'est le principe du self-made man. Et. C'est quelque chose qui est attesté dans quelques hymnes de l'Égypte ancienne, à savoir « je me suis fait moi-même ». En fait, c'était parfois même l'auto-désignation du pharaon divin. Alors, ça semble moins problématique que de ne pas suivre les enseignements divins. Mais c'est plus sournois. Pourquoi ? Parce que c'est en fait la racine de l'orgueil. C'est-à-dire que quand on pense qu'on est auto-fondé et qu'on ne doit rien à personne, eh bien en fait, on se place dans une attitude qui d'abord ne connaît pas le principe de reconnaissance, à tous les sens du terme, et puis qui ensuite risque de susciter une forme de mépris vis-à-vis des autres. Et du coup, ce sont les racines de l'injustice sociale. C'est qu'à partir du moment où on pense qu'on s'est auto-fondé, on va avoir, par exemple, un regard extrêmement méprisant sur les chômeurs, parce que c'est forcément des bons à rien. C'est-à-dire que si quelqu'un est dans une situation précaire sur le plan social, c'est nécessairement de sa faute, puisque on peut tous s'auto-fonder. Et donc, on avait vu qu'Ézéchiel essayait de remettre de mettre au centre de l'éthique de responsabilité individuelle, et non pas de responsabilité collective où on paye les pots cassés de ses parents. Et là, il va en fait trouver un peu la limite de la responsabilité individuelle, c'est que à la fois je suis responsable de mes actes, mais je suis aussi incapable d'agir seul. C'est-à-dire que ce serait une illusion de considérer que je n'ai pas besoin des autres pour réaliser ma vocation, par exemple, ou pour me réaliser, pour prendre un terme plus contemporain.
Est-ce que tu crois que cette interprétation pouvait être celle des Hébreux il y a combien, plusieurs centaines de milliers d'années?
Quand il dit Ani Asitini, il dit moi je me suis fait. Alors on peut le comprendre comme on veut, ce moi je me suis fait. Peut-être que les Hébreux n'avaient pas notre capacité d'abstraction. Mais moi je crois que si. Mais avec d'autres moyens, enfin ils avaient la possibilité d'atteindre les mêmes niveaux de réalité, mais en utilisant d'autres façons langagières de les dire. Oui, vous avez des réactions.
Je pense que C'est une illusion en plus, la fleur d'argent. Quand ils disent qu'il fait une fleur, quand on dit qu'on s'est fait, etc.
Ah oui. Je crois que c'était une illusion, mon interprétation. Vous m'avez fait peur. Très bien, merci.
C'est
une
illusion. C'est qui la vie au départ, c'est la création, c'est Dieu qui a tout fait.
Oui.
Et en réponse, c'est une forme de changement d'humilité. Mm-hmm. De voir qu'on participe. Mais on ne fait pas tout, il n'y a que Dieu pour faire tout.
Oui, vous avez raison de le raccrocher avec, par exemple, le récit de Genèse 1, qui, nous l'avions vu, est du même courant rédactionnel, la couche sacerdotale, qui est une façon de dire que, à la fois, le monde n'est pas divin, c'est-à-dire que ce sont des astres, ce sont des luminaires, ce sont des choses, ce ne sont pas des divinités, et puis que le monde ne nous doit pas tout. C'est-à-dire qu'il y a de l'autre que nous qui intervient. Ouais. Vous avez aussi une remarque à côté. Juste vous.
Oui, je suis d'accord avec cette idée de self-man. Je me suis fait moi-même. Je pensais à l'idée de s'être même fécondé soi-même. Je veux dire,
oui.
Le pharaon est le roi divin. L'Égypte est un nom du Nil, la terre haute. Donc tout lui est dû. Il est le Dieu créateur, il est l'origine de tout. Je pousse un peu le raisonnement.
Oui. Oui, d'autant que ce monstre marin, ce monstre mythique, est en fait utilisé dans d'autres récits mythiques pour dire que c'est le cœur même de la création. Dans certains récits mythologiques, en fait, pour créer le monde, on va prendre ce monstre primordial et le fendre en deux. Et du coup, c'est cette idée selon laquelle je serai l'origine. Et les textes bibliques, eux, vont plutôt aller sur la quête illusoire de l'origine, notamment avec le récit dans le jardin d'Éden, en disant qu'il y a une quête de l'origine qui est improbable et impossible. Par contre, investir le présent, voilà ce qui nous est donné.
Il y a quand même un problème textuel ici.
Oui.
Si on le compare avec verset 9, on voit que là, il ne dit pas « moi je me suis fait, mais j'ai fait le Nil en fait ».
Ben, c'est-à-dire qu'il nous manque le complément d'objet direct dans le verset 9. J'ai fait pour moi.
Oui, et dans la Septante, dans les deux instances, on trouve autus comme objet. Alors, eux, c'est-à-dire les fleuves. Et c'est pour ça que le texte hébreu aussi, dans la paraclétique, suggère qu'on va corriger verset 3 aussi. Ça ne donnerait pas forcément pas une autre lecture parce que un grand crocodile qui se vante d'avoir créé la terre, c'est presque la même chose qu'un grand crocodile qui se vante d'avoir ce fait. Mais bon, c'est une petite différence quand même.
Oui. Dans les deux cas, effectivement, on est quand même plutôt sur la même logique. Mais après, sur le détail, oui. Alors ici, on ne pourra pas trancher, et j'apprécie le fait que vous ayez gardé le verbe « se fendre » pour le grand crocodile qui se fend comme le monstre primordial. En tous les cas, il y a une sorte d'arrogance qui est disqualifiée. Voilà. En tous les cas, c'est un texte qui disqualifie l'arrogance des puissants, et qui, au passage, montre que les petits, eux, sont tributaires de l'arrogance du puissant, puisque les petits, c'est les poissons, c'est nous, qui sont accrochés aux écailles du crocodile. Du coup, ça montre que cette logique du monde, qui est cette logique qu'essaye de neutraliser Ézéchiel, c'est la logique où la responsabilité collective embarque tout. Et on va le voir. Après, au verset 9, c'est le dessèchement, la désolation. Le résultat de cela, c'est qu'en fait, on sort la société de son, du milieu où elle peut s'épanouir, et donc elle dépérit.
Une remarque à propos de ce livre. Il n'est pas présenté comme un être agressif qui tue. Ça. Or, la première chose que on va faire pour le contrer, on va lui mettre un anneau à ses mâchoires. Alors, ce n'est pas pour l'empêcher, d'après le contexte, de tuer, de manger. C'est pourquoi ? C'est pour l'empêcher de parler.
Non, il faut imaginer que ce sont des boucles, en fait, qui permettent de le traîner, effectivement. Ouais, vous avez ça dans le deuxième livre des rois, au chapitre 19, verset 28. En fait, les esclaves, aussi, avaient des boucles, et puis ça permettait de... Ben voilà, d'assurer le transport. Oui, verset 4. Et Ésaïe, chapitre 37, verset 29. Qui dit mieux ? Ok, d'accord. Jean-Claude vainqueur. C'est vrai que c'est intéressant comme remarque de dire qu'il n'a pas l'air méchant ou qu'il n'a pas l'air de faire du mal. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est en ce sens qu'il est monstrueux. C'est qu'il ne paye pas de mine. Et puis vous voyez, on dit grand monstre marin, mais c'est un peu exagéré parce qu'on ne sait pas trop comment le traduire, ce mot hébreu. Et puis dragon, quand on a vu des Walt Disney, on imagine ce que ça peut être, mais après tout, rien ne dit que c'est pas mignon, un dragon. D'ailleurs, il y a des Walt Disney où le dragon est super mignon, même le noir invisible, tout ça, là.
La baleine de Jonas, c'est aussi un
monstre
marin, en
quelque sorte. Oui, oui, qui est plutôt sympathique.
Plutôt sympathique, utile.
Utile. Oui, oui, en Chine, ça a l'air aussi, oui. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que quel que soit l'aspect qu'il a... En fait, moi, j'aime assez l'idée qu'il ait un aspect bien présentable et qu'il ne fasse pas peur. Parce que le texte biblique est justement fait pour nous rendre vigilants sur le fait que ce qui ne nous fait pas peur n'est pas forcément non nuisible. Et que ce qui semble assez dérisoire... est en fait extrêmement problématique. C'est-à-dire que aujourd'hui, il convient d'être vigilant vis-à-vis. Vous savez, il y a eu des campagnes de publicité pour alerter les enfants sur les nouveaux moyens de communication, et que c'est pas parce qu'on s'adresse à quelqu'un qui se présente comme ayant 14 ans, une petite fille de 14 ans, qu'en fait c'est une petite fille de 14 ans. Ça peut être un énorme monstre derrière. Oui, bon. Voilà, en fait, ça reprend cette logique-là. Ouais, les monstres gentils, il y en avait, c'était l'île aux enfants. Bien. Oui, c'était Casimir, c'est ça. Bon, allez, arrêtez de m'embarquer sur les trucs invraisemblables. Bien. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que le prophète Ézéchiel nous équipe individuellement pour que nous ne soyons pas comme ces bancs de petits poissons qui vont suivre bêtement le crocodile dans son rapport néfaste au monde. Et du coup, le verset 5, c'est « Je te jetterai dans le désert » avec justement tous ces petits poissons. Et vous voyez, il n'arrive pas ce qui était arrivé à Israël autrefois. Souvenez, Israël était comme ce nouveau-né laissé à l'abandon et puis qui avait été recueilli, on en avait pris soin, etc. On l'avait frotté avec du sel, c'était la fois précédente qu'on avait vu ça. Et bien là, il ne se passe rien. Et c'est pire que ça, je te donnerai en pâture aux bêtes de la terre et aux oiseaux des cieux. Donc, l'abandon absolu. C'est ce qu'on appelle la dérilection, en fait. Hein. L'absence de Dieu au sens où il n'y a plus de vie possible. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est ce qui permet à tous les habitants de l'Égypte de savoir que c'est l'Éternel qui est derrière cela. Et donc là, il y a quelque chose qui effectivement encore moins sain que d'utiliser Babylone contre Tyr ou l'Égypte, c'est que on utilise le peuple pour asseoir la grandeur divine. Au fond, Dieu se fait une renommée sur l'abandon d'Israël et sur l'outrage fait à Israël.
C'était aussi le sort de tous les condamnés à mort, en particulier de tous les crucifiés.
Ouais. 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 Tous les condamnés à mort finissent effectivement par mourir. Beaucoup étaient appelés et peu ont échappé. Oui.
On est habitué dans les récits de l'Ancien Testament à voir à entendre parler de tous les ennemis d'Israël qui ont nom les Philistins, les Jébuséens, et là, on est dans une dimension totalement différente. Alors, c'était des petits peuples hein, que Israël combattait constamment, s'affrontait. Et là, on est vraiment dans une autre ordre de dimension. Ce sont deux empires, l'un en face de l'autre.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, sur le plan historique,
les deux empires qui, à des moments donnés différents de l'histoire d'Israël, ont absorbé Israël.
Ça, c'est dans une vision très bibliocentrée. Parce qu'il n'est quand même pas évident qu'avant ce moment-là, Israël fut Israël. C'est-à-dire que si on est effectivement sur la narration telle qu'on la voit dans le livre de l'Exode, Josué, et puis après le livre de Samuel, on a un peuple qui a grandi en Égypte, et puis qui s'enfuit, et puis qui vient s'installer autour de Jérusalem, et puis qui à un moment donné va instaurer sa royauté avec Saül, puis David et Salomon. C'est quand même pas du tout attesté ça. Par les sources externes. Et quand on regarde le livre d'Ézéchiel qu'on a sous les yeux, on peut se demander si en fait Ézéchiel n'est pas en train de constituer Israël, s'il n'est pas en train de faire d'une petite populace qui n'avait jamais vraiment eu rang de nation, un peuple avec une conscience et une structure propre qui va pouvoir, à un moment donné, devenir l'Israël d'Esdras et Néhémie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avec Esdras et Néhémie, par exemple, que le judaïsme apparaît. Et est-ce que c'est pas à ce moment-là, en fait, que l'Israël dont on a un peu l'idée à la lecture de tous ces textes bibliques, apparaîtrait. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'on a une véritable nation qui surgit, au sens où, ce qui est quand même très étrange, c'est les proximités littéraires entre la sortie d'Égypte et le temps à Babylone. Alors, en principe, on se dit, ben oui, c'est-à-dire que le peuple est déporté à Babylone, du coup il repense à son expérience en Égypte, et puis il se dit ce qui s'est passé en Égypte, ça pourrait se reproduire, etc. Mais est-ce que on ne pourrait pas avoir l'autre hypothèse qui est la suivante? Des traditions patriarcales circulaient sur des pérégrinations des anciens, les famines qui avaient fait que les gens s'étaient déplacés avec plus ou moins de succès dans telle ou telle contrée. Et puis arrive ce moment où Israël est effectivement, enfin, une population de Judéens est effectivement sous le coup de la domination babylonienne et se dit, mais quel est notre avenir en fait? Serons-nous à jamais un peuple de soumis et d'esclaves, ou est-ce qu'on peut espérer autre chose? Et c'est là que les textes du Pentateuque commencent à se rédiger, en fait, comme paradigme de la liberté et comme paradigme d'une vie autonome. En utilisant des traditions orales, issues de plusieurs familles, et compilées dans cette grande fresque qui devient structurante, tellement structurante qu'aujourd'hui, on pense que c'est historique. Nous, parce qu'on a été nourris, pour certains, à ces textes depuis longtemps. Et que du coup, on les tient pour vrais, sur le plan spirituel, ce qui est une bonne chose, sur le plan historique, ce qui est contesté même par Ézéchiel. Et du coup, si on est un peu honnête vis-à-vis des données historiques externes, qui sont nulles, à peu de choses près, sur toute la période royale, à part une mention de la maison de David sur une stèle quelque part, ce qui est un peu faible, où évidemment les archives royales égyptiennes n'ont aucune mention de l'Exode. Et ce n'est pas parce qu'on ne consigne pas les mauvaises nouvelles, mais c'est a priori parce qu'ils ne l'ont pas vu passer, cet événement. Parce que les défaites, ils les ont inscrites dans leurs archives royales. Kadesh Barnea, ce n'était pas forcément la grande gloire de l'armée égyptienne, et pourtant, ils l'ont retranscrite. Donc, quelques éléments qui, moi, me feraient dire qu'il ne serait pas inenvisageable que, après avoir considéré que les textes bibliques du Pentateuch étaient rédigés au moment de l'exil, au moment de la vie à Babylone, ce qui est attesté ne serait-ce que sur un plan de la langue, c'est-à-dire que c'est un hébreu qui est de cette époque-là et pas du Xe siècle. On pourrait aussi se dire que le contenu, le récit, est issu de la réflexion à Babylone et non de la mémoire de faits qui se seraient déroulés 4, 5, 6, 7 siècles auparavant.
Il y a quand même, entre la période d'Égypte, la servitude en Égypte,
oui.
Je ne sais pas, Israël, à ce moment-là, c'était une tribu, enfin, c'est un petit peu un esclavage.
Supposer qu'il le fut en Égypte.
Oui, supposer, c'est mythique. Jérusalem n'existait pas, la constitution. Bon. Et puis, Babylone, il y a peut-être, je ne sais pas, 1000 ans d'écart, non ?
Bah, disons qu'en chronologie absolue, on peut imaginer que la sortie d'Égypte, c'est moins 1200 et que Babylone, donc, c'est le 6e siècle. Donc disons qu'il y a 600, 700 ans d'écart.
Et,
reconstitution.
Au temps de Babylone, Israël était un peuple constitué. Il y avait,
tu l'as bien au courant.
Qui avait sa capitale, qui avait le temple de Jérusalem, etc. Qui existait.
Dont on n'a pas retrouvé beaucoup de traces. Hein.
Comment ?
Dont on n'a pas retrouvé beaucoup de traces.
Quand est-ce qu'il a été construit, alors, ce temple ?
Ouais, ben, on a des traces d'un aqueduc du temps d'Ézéchias. On peut imaginer qu'effectivement, l'aqueduc d'Ézéchias est d'époque. Pour le reste, force est de constater qu'on a quand même peu de traces. Et la vie cultuelle de l'époque, on a quand même peu de traces. Et quand on se promène en Égypte et quand on se promène en Israël, eh ben, y a quand même une différence de ruines. C'est-à-dire que quand on est en Égypte, on lève la tête, et en Israël, il faut se mettre à quatre pattes pour se dire ouais, que sous le topsoil, il y a effectivement une petite pierre qui traîne. Quoi.
Donc vous pensez que même le premier temple de Jérusalem aurait pu naître.
Le temple de Salomon serait mythique.
En tous les cas, je pense que le temple de Salomon n'avait pas le caractère central qu'on lui prête. Peut-être ni les dimensions. La localisation, probablement, mais comment ne pas imaginer qu'il y avait un sanctuaire là ? Il n'y a pas de raison de le nier. mais que on ait eu les fastes de la cour telles que c'est raconté à l'époque, pas aussi évident que ça, je trouve, quand même.
Le déluge, je pensais aussi qu'il pourrait se rattacher à l'épopée de Gilgamesh.
Ah bah c'est incontestable. Mais bien sûr. Enfin, si on imagine le récit du déluge sans se référer à Gilgamesh, on passe un peu à côté des sources. C'est-à-dire que c'est évident, quand on a les deux textes côte à côte, qu'il y a des contacts littéraires. Mais est-ce qu'il ne dévalorise pas le texte biblique ? Puisqu'on vient de dire que c'est une illusion de penser qu'on fait de la création ex nihilo. Je veux bien, mais quand vous prenez Genèse 1, au début, il n'y avait pas rien. Il y avait du tohu wabohu, il y avait du chaos, et ce chaos n'était pas rien. Ah ben, peut-être pas, ouais. Mais le rien, vous savez, les mystiques disent le rien, c'est Dieu, précisément. C'est-à-dire que c'est l'hypothèse de Maître Eckhart. Quand Samuel est sur son chemin Saül est sur son chemin de Damas, qu'il fait cette expérience religieuse, on dit qu'à un moment donné, il ne voyait plus rien. En fait, le texte dit qu'il ne voyait rien. Et Eckhart rajoute, et ce rien était Dieu. Hein, c'est pareil, il ne voyait rien, c'est il voyait rien. Donc c'est pas rien. Bien, on continue, parce que sinon, on va même pas atteindre le chapitre 30. Allez, quelqu'un nous lit les versets 6 à 9 rapidement. Ouais, 6 à 9, comme ça on reprend 6b.
Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un appui du roseau pour la maison d'Israël. Lorsqu'ils t'ont pris par la main, tu t'es rompu et tu leur as déchiré toute l'épaule. Et quand ils se sont appuyés sur toi, tu t'es cassé et tu as fait chanceler tout leur rein. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je t'ai fait venir l'épée sur toi et je retrancherai de toi homme et bête. Et le pays d'Égypte sera une désolation et un désert. Et ils sauront que je suis l'Éternel, parce qu'il a dit, le fleuve est à moi, et moi, je l'ai fait.
Bien. Alors, là, vous avez votre parfait manuel de guérilla Vietcong. Donc, comment lutter contre l'armée d'occupation française ou américaine en utilisant les roseaux ? Que vous empoisonnez, c'est encore mieux. Bon, ça ne prête pas beaucoup d'interprétation, c'est clair, je pense. Hein, c'est-à-dire que ce qui doit servir de canne s'avère être, en fait, un piège. Ce qui devrait être une sorte de fondation sur laquelle on prend appui s'avère être, en fait, ce qui va nous transpercer. Donc, vous voyez, il y a le côté perverse de la chose. Quelqu'un qui n'est pas fiable, on se dit qu'on va pouvoir s'appuyer dessus, puis en fait, ça nous transperce, ça nous abîme, ça nous blesse, ça nous tue. Ça dit bien le côté perverse. Sur un état, on peut aussi faire l'interprétation, c'est-à-dire que un état qui donne des allures comme ça d'état providence et puis qui en fait se dérobe à chaque besoin, qui en fait n'assure pas le minimum de ses prérogatives. Alors, il y a juste un point étonnant, mais alors du coup, maintenant que j'ai des hébraïsants plus, je vais faire appel à vous. Juste pour vérifier. Le verset 7, est-ce que déjà quelqu'un aurait d'autres traductions à nous faire entendre ? Notamment la dernière partie, là, tu as fait chanceler tous les reins. Parce que.
Tu leur as paralysé les
reins. Paralysé. Vous avez d'autres choses encore ? Parce qu'en fait, le mieux, je crois que ce serait immobiliser. Parce qu'en fait, c'est Hamad, c'est se tenir. Oui, François ?
Alors d'abord.
Oui.
Lorsqu'ils t'ont pris par la main, de qui s'agit-il ? Il. Et ensuite, la main, c'est la main de qui ?
Bah, tous les habitants de l'Égypte. C'est le verset 6.
Tu t'es rompu. Qu'est-ce qui s'est rompu ?
Bah, c'est le pharaon. C'est l'État.
Donc, il, c'est le peuple.
Oui, les habitants, oui.
La main, c'est qui ? La main de pharaon ?
Oui, c'est ça. Qui est en fait la tribu du pouvoir, c'est-à-dire qu'ils t'ont pris par la main, c'est-à-dire qu'ils se sont pris appui sur toi, quoi. Ils ont fait appel à toi.
Je vois pas pourquoi ça leur a déchiré l'épaule.
Ouais. Bah parce que.
Oui,
d'accord. Mais l'idée, c'est que c'était un roseau, en fait.
Ouais.
Et si on prend une canne, qu'on met la main dessus, mais qu'en fait, ça s'avère tranchant, en fait, vous voyez, ça nous démonte tout, en fait. C'est comme les fameuses trappes avec les bambous au fond. Ça transperce bien jusqu'au péroné, facile. Et le reste avec. Donc, a priori, plutôt que faire chanceler les reins, ce qui pourrait donner l'impression de se trémousser, c'est plutôt figé, en fait, immobilisé. Ça va ? Bon. Et du coup, tétanisé. Plus que paralysé. Il y a le fait d'être crispé, en fait. Alors que celui qui est paralysé, c'est pas celui qui est tendu, c'est pas celui qui est contracté, c'est celui qui n'arrive pas à se contracter, justement. Et donc, cette paralysie d'un système, ça, c'est aussi une description politique qui pourrait tout à fait être contemporaine. Alors, ensuite, quelqu'un pourrait nous lire les versets 9 à 16.
Et le pays d'Égypte sera une désolation et un désert, et ils sauront que je suis l'Éternel. Il a dit, le fleuve est à moi, et moi je l'ai fait. C'est pourquoi voici, j'en veux à toi et à tes fleuves, et je ferai du pays d'Égypte des déserts d'aridité et de désolation, depuis Migdol à Siem, et jusqu'à la frontière de l'Éthiopie. Le pied de l'homme n'y passera pas, et le pied de la bête n'y passera pas. Il ne sera pas habité pendant 40 ans. Et je ferai du pays d'Égypte une désolation au milieu des pays désolés. Et ces villes seront au milieu des villes dévastées, une désolation pendant 40 ans. Et je disperserai les Égyptiens parmi les nations, et je les disséminerai dans les pays. Mais ainsi dit le Seigneur, l'Éternel. Au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens d'entre les peuples parmi lesquels ils ont été dispersés. Et je rétablirai les captifs de l'Égypte, et je les ferai revenir dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine. Et ils seront là un royaume abaissé. Il sera plus bas que tous les royaumes, et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations, et je les diminuerai en sorte qu'ils ne dominent plus sur les nations. Et il ne sera plus la confiance de la maison d'Israël, mettant en mémoire son iniquité quand elle se tournait après eux, et ils sauront que je suis le Seigneur éternel.
Voilà.
C'est la première fois qu'on parle d'Israël.
Oui.
J'en reviens.
Oui.
J'en reviens à cette disproportion entre ce châtiment effroyable, désolation, cette destruction, qui est la conséquence de ce que quelqu'un, le pharaon, a dit, le fleuve est à moi et moi je l'ai fait. Alors pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais, ça dénonce l'orgueil du pharaon. Voilà, la rétribution de l'orgueil est absolument épouvantable. Ça C'est comme si l'orgueil était montré comme le péché capital.
Ben, c'est le péché capital. C'est-à-dire que c'est le péché originel, en fait. Si on veut. Tout découle de ça. La première chose que vous faites quand vous faites la moindre démarche spirituelle, c'est de bosser sur l'orgueil. Et vous en prenez pour 3 semaines. Minimum. Ah oui, non mais voilà.
Surtout que la littérature antique, entre guillemets le péché, et le péché du bruit.
Oui, c'est ça. Oui, j'allais justement vous dire, la question c'est comment gérez-vous l'hubris ?
Pourquoi est-ce que l'exercice se fait entre tous ces bateaux par une grosse tempête, la punition
d'hubris ? Alors ici, il y a la question du châtiment de l'orgueil, mais il faut plutôt le prendre sous l'angle des conséquences de l'orgueil. C'est-à-dire que... Alors, on peut être dans cette compréhension d'une justice divine rétributive. Tu es très orgueilleux, tu seras donc châtié à la hauteur de ton orgueil. Mais on est dans un livre prophétique qui ne s'arrête pas à ce chapitre-là. Et on le verra avec la fin du livre d'Ézéchiel, ça se finit bien. Donc ça signifie que ce passage n'est pas là pour dire quelle va être la punition que Dieu inflige à tel ou tel. C'est plutôt un texte qui fait réfléchir aux conséquences des mauvais comportements, des mauvaises attitudes. Et donc, quelles sont les conséquences de l'orgueil ? Non pas en termes de « Dieu va vous rétribuer selon ses modalités », mais si on essaie d'évaluer les conséquences de l'orgueil, eh bien, voilà ce que ça donne. Voilà quelle devrait être la note, en quelque sorte. Donc c'est pour favoriser la prise de conscience qui permet au peuple ensuite de changer de comportement et de pouvoir arriver dans les derniers chapitres en bon état. Patros, c'est le sud de l'Égypte, c'est vers le barrage d'Aswan actuellement, hein, pour vous donner une idée de... localisation géographique.
Et Siem aussi. Siem, c'est dans le sud.
Ça, j'ai pas trouvé où c'était. Mais on peut imaginer que c'est dans le coin, oui. Je regarde si je l'ai pas noté, mais je crois pas.
Bon, en général, l'idée, c'est clair. C'est que tout le pays du nord au sud, Migdol, ça sera quelques pour au nord du pays, l'Éthiopie, c'est le sud. Alors,
non, oui.
Migdol, c'est près de l'est de l'estuaire.
Oui, c'est dans le delta. La mention des 40 ans, ça vous a pas fait réagir, vous ? Vous n'avez pas trouvé ça bizarre ? Les 40 ans, là, de pérégrination, comme ça. Ça vous rappelle le temps d'Égypte ? Ouais, c'est toujours dans son sac que ça marche avec vous. C'est pas l'inverse. Vous vous dites pas, tiens, on aurait utilisé... cette expression d'Ézéchiel pour la rédaction du livre de l'Exode, du livre des Nombres, de Deutéronome et de Josué.
On n'est pas des historiens.
Oh bah, moi non plus. Alors, faudrait pas confondre l'humilité et la fausse modestie. Hein. Ça pourrait être de l'orgueil. Pourquoi 40 ? Parce que la quarantaine, c'est la meilleure des décennies. Bon, alors les 40 ans peuvent être compris de deux manières. Il y a tout d'abord avec par exemple la figure de Moïse, l'idée que 40 c'est le moment de la parentalité, de la paternité, le moment où on peut être vraiment parent. Bon, il ne faut pas prendre ce nombre au pied de la lettre. Vous ne dites pas, ah zut, ce n'était pas 40 pour moi, etc. Mais symboliquement, c'est le moment où il est envisageable d'être parent. En fait, c'est le moment de la génération suivante. Et 40, c'est le temps qu'il faut aussi pour zigouiller une génération. C'est-à-dire que si, en fait, le peuple reste 40 ou 42 ans, selon les versions, dans le désert, c'est pour que ceux qui sont sortis aient le temps de mourir et donc de ne pas entrer en terre promise. Donc c'est plutôt cet aspect-là qui compte, là. L'idée qu'il va y avoir du renouvellement. L'idée que c'est la génération montante qui va pouvoir reprendre possession de la terre. Et du coup, on comprend pourquoi il y a un royaume qui est abaissé. C'est-à-dire que c'est comme si on réduisait la voilure, puisqu'on va perdre une génération. Donc on va perdre sur le plan de la quantité. Et là, évidemment, c'est pour gagner en qualité. Juste encore une petite chose. Vous voyez, il y a un peu comme une sorte de neutralisation dans ces histoires de 40 ans qui permettent d'effacer une génération. Si vous regardez le verset 8, il s'agit justement de retrancher « toi, homme et bête », donc « karat », coupé. Et puis au verset 14, quand il va rétablir les captifs de l'Égypte et les faire revenir dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine, en fait, c'est le pays de leur coupure. Donc c'est encore le verbe « karat ». Donc c'est en quelque sorte comme si on fermait une parenthèse. Et on a ça dans le livre de Josué, au moment où le peuple hébreu entre en terre promise. On rappelle qu'il y a toute une génération qui est morte dans le désert, et que du coup, il faut circoncire. Il faut karater les prépuces. Et on a tout un jeu sur... Il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, qui est devenu une nation, et maintenant il faut le circoncire pour en faire un peuple. Et c'est cette idée selon laquelle la perversion d'Israël, ça a été de se prendre pour une nation. La perversion, c'est d'abandonner le lien familial pour se concentrer exclusivement sur le lien politique. Et l'une des revendications dans le désert, avant que ça tourne mal, c'est « soyons comme les autres, ayons un roi, etc. » Ce qui va aller à l'encontre de l'idéal nomade deutéronomiste, par exemple. Et la couche sacerdotale n'est pas très pour non plus, d'ailleurs. Et donc, on a dans l'entrée en terre promise, en quelques versets, une circoncision de tous les enfants d'Israël pour qu'ils redeviennent un peuple, après avoir été une nation. Et ici, en fait, il y a cette idée-là aussi, je pense. On parle de l'Égypte depuis tout à l'heure, mais à mon avis, on ne parle pas de l'Égypte. C'est-à-dire qu'on en parle avec les attributs de l'Égypte. Mais c'est d'Israël dont on parle. Ou c'est d'Israël. C'est de toute personne qui a envie de réfléchir un peu à sa situation. Et du coup, ce qui est demandé ici... c'est qu'on ne soit justement pas un goy, une nation, mais une royauté. Le terme, c'est memalka, memalra. C'est-à-dire qu'on accepte qu'il va y avoir un souverain qui n'est pas soi, et qui n'est pas celui qu'on choisit. Et du coup, il y a là un travail sur l'orgueil, et surtout le moyen par lequel on fait communauté. Est-ce que c'est une communauté qui se fait par l'hubris, ou est-ce que c'est une communauté qui se fait par l'humilité et l'acceptation du fait que notre centre de gravité est en dehors de nous?
Oui. Quelle est la signification symbolique du chiffre 40? Parce que là, il s'agit de 40 ans dans le désert, le Christ s'est retiré 40
jours.
Donc, indépendamment des années, des jours, 40, ça veut dire quoi?
À mon avis, 40, c'est le passage de l'un à l'autre. C'est, comme je vous disais, le père qui peut avoir un fils, mais c'est aussi le fils qui peut pousser parce que le père qui faisait de l'ombre est parti.
40 jours, ça n'a pas le même sens.
Pourquoi ce ne serait pas 40 jours à jeûner? Entre avant et après, je peux vous dire que vous n'êtes plus le même. Hein. Oui.
Les Juifs disent assez facilement que 40, c'est 39 plus 39 d'épreuves. Et le dernier jour, ça se passe bien. 39 semaines de grossesse, la naissance. 39 semaines de privation, la réussite.
En tous les cas, ça correspondrait assez bien à cette dimension de rite de passage. Maintenant, moi, je ne mise pas trop sur les symboliques, surtout quand on atteint les 40, parce que ça devient de moins en moins précis. Mais pour ce que j'observe dans les récits bibliques, voilà ce que je peux en dire. Après, je ne sais pas, 40, c'est quoi? C'est même. Alors, ça fait penser à Maïm, c'est lourd. Après, vous pouvez faire du rite baptismal si vous voulez. Je suis pas attaché à ça. Donc il sera plus bas que tous les royaumes, il ne s'élèvera plus au-dessus des nations, je le diminuerai en sorte qu'il ne domine plus sur les nations. C'est le verset 15. Donc là c'est bien les goïms. Il ne se fera plus la confiance de la maison d'Israël, mettant en mémoire son iniquité quand elle se tournait après eux, et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel, comme le disait Jean-Claude, tiens, on a Israël qui apparaît ici. Peut-être qu'on a la clé d'interprétation à la fin. Quand je vous disais, c'est peut-être pas que de l'Égypte dont on parle. C'est pas que l'Égypte, je vais pas vous faire le coup, l'Égypte n'a pas existé. Mais c'est une figure symbolique aussi, l'Égypte. C'est-à-dire que ça désigne la maison de servitude, ça désigne l'esclavage. C'est pas forcément l'État. Lisons les versets 17 à 21. Enfin, lisez les versets 17 à 21, qui veut.
Et il arriva la 27e année, au premier mois, au premier jour du mois, que la parole de l'Éternel vint à moi. Fils d'homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait travailler son armée à un grand travail contre Tyr. Toute tête en est devenue chaude et toute épaule en a été écorchée. Et il n'y a eu de Tyr aucun salaire, ni pour lui, ni pour son armée, pour le travail qu'il a fait contre elle. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici. Je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, neuf collines. Il n'en enlèvera la multitude, il n'en emportera le butin, il en fera le pillage, et ce sera le salaire de son armée. Avec le pense de son travail pour les filles, je lui ai donné le pays d'Égypte, parce qu'ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur éternel. En ce jour-là, je ferai germer la corne de la maison d'Israël. Et je donnerai une bouche ouverte au milieu d'eux, et ils sauront que je suis l'Éternel.
Voilà. Alors, donc on est en mars 570. Alors, on peut se dire que c'est assez épouvantable, comme vous le faisiez remarquer, de donner l'Égypte en lot de consolation à Nabucodonosor qui a bien besogné contre Tyr. Il y a éventuellement autre chose que l'on peut se dire. C'est que notre prophète Ézéchiel est quand même sévèrement honnête. Parce que si vous regardez les chapitres qui précèdent, c'est-à-dire les chapitres 27-28, vous allez voir que Tyr est sous le feu de l'actualité. Et que ce qui est annoncé, c'est que Tyr va être ruiné, ravagé, détruite. Et en fait, ce qu'il apparaît, c'est qu'au bout de 13 ans de siège, eh bien en fait, Tyr ne sera pas détruite. Et il l'inscrit, en fait, dans son texte. Ce qui montre aussi les délais hein, qu'il y a entre les différents textes. Donc, ça rejoint les questions tout à l'heure, combien de rédacteurs, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que lecteur, c'est de voir que le texte biblique contient en lui-même sa propre critique. On peut considérer qu'il y a là une contradiction. En fait, c'est simplement que le temps qui passe fait que les choses ne se passent pas comme on aurait pu l'imaginer. Ce qui montre du coup que Ézéchiel est bien un théologien qui pense une situation historique et que tout bon théologien qu'il soit, il peut commettre des erreurs d'appréciation, de prospective, de prédiction. On peut aussi sauver la prédiction d'Ézéchiel en disant « Eh bien, c'est parce qu'il a bien fait son travail qu'il y a eu une prise de conscience, et comme il y a eu une prise de conscience, ce qui devait arriver n'est pas arrivé. » Un peu à la manière de Jonas qui prévient les Ninivites que ça va mal se passer, du coup tout le monde se convertit, et du coup tout se passe bien sauf pour Jonas qui est raide, jaloux de cela. Bon. Voilà, en tous les cas, ce sont des éléments qui permettent d'avoir un rapport calme et détendu au texte biblique. Texte biblique qui est là pour nous faire réfléchir et qui n'a pas un caractère prescriptif. On le voit parce que c'est très éloigné de notre culture, mais on ne sait jamais, des fois, on pourrait être tenté de prendre les choses un peu au pied de la lettre. Pourquoi chauve et aux épaules écorchées ? Je pense qu'il y a au moins quelqu'un qui doit avoir la réponse dans une des notes de son édition, non ? Moi, je trouvais ça dans la tobe. Alors, d'où ça vient ? Est-ce qu'on a tondu les collabos ? Est-ce qu'on a scalpé les peaux rouges ? Pardon ? Voilà. Voilà, dans la tobe, ça explique que, puisqu'il y avait une sorte de siège, il a fallu faire beaucoup d'activités commerciales discrètes, et donc on mettait les colis et sur la tête et sur les épaules. Hein, on se chargeait de façon à avoir une structure légère. Donc ça serait la métaphore qui désignerait cela. Que je trouvais de plus plausible. Parce que sinon, effectivement, il y avait le coup d'humilier, de mettre des gestes symboliques sur le fait que... Voilà.
Je suppose qu'à l'époque, il y avait déjà des chevaux.
Des chevaux. Des ânes. Des chameaux. Mais des chevaux. Ah, des chauves.
Des chauves. Je ne connais pas une punition.
Ah bah si.
L'épaule écorchée, c'est dans une bataille, on est chauve, c'est un phénomène naturel.
Allez dire ça à Samson. Allez dire ça à Samson, c'est naturel, ça va vous faire du bien même, c'est bon pour votre santé.
Je m'adresse à Jean-Claude.
C'est pas joli, joli. Ouais. La question, c'est le besoin de rétribution du verset 18. Il n'a eu de tir aucun salaire. Et c'est comme si cela était épouvantable. Comme s'il avait travaillé en vain. Et du coup, cette sorte de plainte sourde qui s'élève va trouver une réponse puisqu'il est dit que Dieu va tenir parole et qu'il va récompenser celui qui a besogné en fait. Oui, sauf que là, il ne se sert pas sur la population, c'est qu'on va lui donner quelqu'un d'autre.
Mais est-ce que l'Égypte a réellement été ravagée ?
Alors, l'Égypte va être vraiment ravagée ensuite. Pas du temps de Nabucodonosor. Parce que le petit pharaon dont on a parlé jusque-là s'en est bien sorti. Alors le petit pharaon dont on a parlé jusque-là s'appelle Apries. Apries. Ophra dans la Bible. Le règne d'Apries, c'est 588 à 568. À peu près. Moi, je m'y perds toujours dans les dynasties, mais c'est un pharaon de la 26e dynastie. Ça, c'est pour les questions triviales poursuite. Et en fait, en regardant un peu l'histoire de ce pharaon dont vous avez le sphinx sculpté à la fin, là, on apprend qu'il a soutenu Tyr et Sidon contre les Babyloniens. Donc vous voyez, il y a une alliance politique objective entre ce pharaon, Tyr, Sidon, contre Babylone. Il va tenir bon contre Babylone, par contre, il n'empêchera pas que Babylone ruine Juda. Donc voilà pour la parenthèse. Sur la question... La question de la récompense, du coup. Avec cet élément-là, on peut peut-être se dire que ce que le livre d'Ézéchiel rédige, c'est, disons, une sorte d'explication du fait que l'activité militaire va se déporter depuis Tyr jusque sur l'Égypte. Qui en fait est avéré sur le plan historique du fait du soutien de l'Égypte à Tyr. Donc, on a ici peut-être la trace non pas d'une perspective religieuse qui serait qu'il y a quelque part une conscience divine, supérieure, qui ferait passer le dévolu de Babylone depuis Tyr jusque sur l'Égypte. Mais peut-être le fait de souligner que l'alliance objective entre l'Égypte et Tyr n'est pas sans conséquence pour l'Égypte. C'est-à-dire que jusque-là, non inquiétée par son alliance, l'Égypte se retrouve en fait au front. En fait, l'Égypte utilisait Tyr contre Babylone. Et voilà qu'elle va se retrouver maintenant directement face à Babylone. Alors, c'est peut-être là le deuxième enseignement, mais petit celui-là. C'est que les textes bibliques sont destinés à démonter les mécanismes de violence. Ça, René Girard l'avait assez bien montré pour tout ce qui concerne le procès de Jésus, par exemple. Mais dans le livre d'Ézéchiel, il se pourrait qu'on ait aussi une réflexion théologique sur les mécanismes de violence politique, notamment à travers les alliances, qui est mise à jour et qui nous permet de pouvoir, là aussi, nous préparer quant aux répercussions des conflits. Aujourd'hui, on a une conscience politique probablement mieux acérée qu'à l'époque, parce qu'on est mieux informé. Mais, à l'époque, comment faire pour expliquer que on peut pas envahir la Syrie sans risquer un problème avec la Russie, par exemple. On n'avait pas les moyens de communication pour le faire. Et donc, ce genre de texte, ça permet aussi d'avoir une sorte de pédagogie pour faire prendre conscience qu'il y a des phénomènes comme cela de ricochet et que la politique internationale, c'est aussi un jeu de billard. Et de dominos aussi. Ça, les dominos, c'était plutôt MacArthur dans le Pacifique. J'ai pas entendu, Françoise.
Non, je veux dire, les dominos, c'est vraiment la chute partout, tandis que le billard, c'est...
Ouais. Bon, ceci dit, là, ça s'écroule pas mal, quand même. Alors, je vous propose d'avancer sur le chapitre 30... Ah oui, juste la question de la corne. Si vous voulez voir à quoi fait référence la corne, c'est le symbole de la force et vous pouvez aller voir dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 1. Le chapitre 30 ne présente comme intérêt majeur essentiellement la mention du jour de l'Éternel au verset 3. Yom le Yahou. C'est ce jour de l'Éternel qui est devenu le Dies Irae, le jour de colère, mais aussi le jour du Seigneur. Non pas au sens d'émission de télé le dimanche matin, mais au sens de ce jour du jugement. Le jour de Yahvé, on en trouve la première trace dans le livre d'Amos, au chapitre 5, les versets 18 à 20. Je vais vous les lire juste pour que vous les entendiez sans avoir besoin de chercher trop. Amos, chapitre 5, versets 18 à 20. « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel ? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours. Qui gagne sa demeure appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière ?» Donc, vous voyez, c'est cette idée selon laquelle n'arrive pas ce qui était prévisible. C'est un peu comme cette histoire, on s'appuie sur un roseau et puis en fait ça nous transperce. Et puis cette fois dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 2, les versets 5 à 6, c'est aussi une logique de la rétribution telle qu'on l'a entendue dans Ézéchiel. Romains chapitre 2, versets 5 à 6. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ce qui rejoint un peu le thème de l'endurcissement du cœur dont parlait François au sujet de Pharaon au début. Donc le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, le jour de colère, voilà, c'est un thème qui a été assez développé sur le plan musical. Dreyer en a fait un film. D'autres des manifestations, mais qui sont quand même pas de même teneur. C'est ce qui pourrait aussi préfigurer le Yom Kippour, le jour du pardon. Le jour du pardon étant d'abord un jour du jugement, en ce sens où pour être pardonné, il faut d'abord que la vérité ait été dite. Accessoirement, il faut même qu'il y ait une petite repentance du célébrant. Et ce jour du jugement, c'est le jour de la révélation, et donc c'est la raison pour laquelle Amos joue sur cette histoire de ténèbres et de lumière, pour qu'apparaissent les actes dans leur pleine lumière, et pas dans cette demi-obscurité où on se trompe, où on prend des monstres pour des animaux de compagnie.
Alors qu'est-ce que ça veut dire dans la suite du verset, c'est le temps des nations ?
Eh bien, ça peut vouloir dire que l'Éternel devient le saint patron pour ces personnes-là, en fait, pour ces nations. C'est-à-dire que si ça devient un jour pour les nations, un jour de jugement pour les nations, ça signifie que, comme dans la prophétie d'Ésaïe, vers chapitre 2, là au début, toutes les nations affluent vers le mont Moria, où se trouve le temple, d'où sort la parole de l'Éternel, et toutes reconnaissent là le bon prescripteur de parole. C'est-à-dire que c'est cette vision où une paix universelle s'instaure, qui conduira d'ailleurs à ce qu'on transforme les armes en objets agricoles, parce que tous reconnaissent qu'il est là, le souverain. Et donc tous reconnaissent que ces décrets, ces paroles sont justes pour elles-mêmes.
Ça veut dire que ça enveloppe la globalité des nations.
Oui.
Tout le monde est concerné par ce jeu.
Oui.
Le terme nation, une petite explication.
que dans l'Ancien Testament, ce terme est appliqué aux peuples qui ne sont pas le peuple de Dieu et qui sont des étrangers à l'Alliance et aux promesses de Dieu.
Alors ça, c'est une compréhension moderne. Parce que, justement, comme je vous le disais, Israël peut devenir goy, peut devenir nation, dans la mesure où il privilégie le lien politique.
Oui, mais avant, auparavant, les nations, c'était plutôt ceux qui n'étaient pas les peuples de Dieu.
Oui, mais avec Ézéchiel, on a cette idée selon laquelle Dieu est universel, en fait. Et c'est ce qu'on trouve dans la couche sacerdotale, c'est-à-dire qu'il y a un monothéisme qui se met en place et qui fait que nul n'est exclu de ce lien possible avec Dieu. Contrairement à cette époque où on avait le Dieu local ou national, et puis le voisin en avait un autre. Et l'idée, c'était d'avoir le plus fort ou le plus fécond ou le meilleur.
C'est dangereux quand même de prendre trop au sérieux la distinction entre les mots goy et un peuple, parce que même la promesse de Dieu à Abraham, c'est qu'il sera un goy gadol. C'est clairement pas une nation dans le sens péjoratif qu'on a juste.
Ouais. De mes.
La situation linguistique est plus compliqué, les termes ne sont pas nettement distincts.
De mémoire, c'est en Genèse 15 qu'il y a cette promesse, et ça c'est la couche éloïste, et pas la couche sacerdotale qui est en Genèse 17. Mais ça serait à vérifier dans le détail. Mais vous avez raison, il faut toujours rester calme sur les termes. Mais il y a quand même des endroits où il y a des jeux manifestes sur âme et goy. Notamment quand je parlais de la circoncision, ça c'est... Je peux vous y mettre mes deux mains à couper. Mais oui, ouais, bien sûr, restons calmes éventuellement.
Par contre aussi, l'âme à Arets, dans Ézéchiel, ce n'est pas exactement bon. Une louange d'être appelée à Arets.
Non, effectivement. C'est là où il est difficile, en tous les cas pour moi, de savoir comment se manie l'ironie chez cet auteur-là. Parce que moi, j'imagine très bien que c'est le genre d'auteur capable de manier donc l'humour ou des formules rhétoriques auxquelles je ne suis pas suffisamment sensible. En français, ça irait mieux, mais là, les choses m'échappent copieusement. Donc, ouais, ça c'est le genre de lieu où on peut observer plus dans le détail. Avant de se séparer, je regarde si il y a un élément ou l'autre qui pourrait être très intéressant. Ah bah oui, c'est la fin. Bon, je ne vais pas vous le relire, vous le lirez. Je vous explique pourquoi j'ai mis cette photo du sphinx. C'est parce qu'il y a tout un jeu sur les bras cassés. On va casser le bras, etc. Et en fait, on le voit sur la représentation. En fait, les bras sont bien évidents pour le sphinx de ce pharaon. Je me suis demandé si, du coup, ce n'était pas un trait caractéristique qui avait justifié cette écriture-là. Hein, c'est-à-dire qu'après tout, on a bien envie de lui casser le bras, ce sphinx, qui, j'espère, est bien protégé au Louvre. Casser un bras, puis même lui casser les deux bras, et puis d'un côté, renforcer les bras de Nabucodonosor. Et vous voyez, on pourrait dire l'histoire, ici, apparaît comme l'histoire des gros bras. Mais le prophète annonce qu'en fait, c'est ni les bras cassés, ni les gros bras qui font l'histoire. En fait, il annonce qu'un autre est au travail, qui peut affaiblir les bras de l'un, qui peut affermir les bras de l'autre, qui en quelque sorte peut briser de l'orgueil et qui peut restaurer une espérance déçue. Et puisqu'on parle de ce pharaon, pour Jean-Claude qui se demandait où on le trouve, ouais, et aussi dans Jérémie au chapitre 37, verset 5, on a la mention d'Ophra, qui est la forme hébraïque, je présume, d'Apries. Voilà, c'est l'heure. La prochaine fois, on se retrouve sur Ézéchiel et la question des sentinelles. Donc, c'est tout début mars. Je suis à votre disposition encore s'il y a quelques petites questions.